Chapitre 3. En prison. Martin reçut une nouvelle bourrade. « Allez, dépêche-toi, grogna un des soldats. Voilà bien 2 heures qu'il nous fait courir la campagne à cause de toi. »« Où me menez-vous ? » demanda le garçon de plus en plus effrayé. « Tu n'as pas entendu ?»«
Je n'ai rien fait de mal. Lâchez-moi. »
Le garde eut un haussement d'épaule. « Ne te fatigue pas. Nous, on fait ce qu'on nous dit. » Il n'y avait rien à espérer. Martin abandonna toute résistance. Il se laissa conduire vers une tour dans laquelle il pénétra par une porte basse. Là, sur les grandes dalles grises, les soldats s'arrêtèrent. « Faudrait peut-être le descendre à la cave, » suggéra l'un d'eux. « Tu as vu l'âge qu'il a ? On va tout de même pas le faire moisir dans cette humidité. Le seigneur, pour sûr, n'aimerait pas beaucoup ça. » Le garde décrocha une torche qui flambait contre la muraille, et dit avant de s'engager dans un escalier étroit « Allez, passe devant !» Les marches succédèrent aux marches. L'escalier tournait sur lui-même. Martin, docilement, montait vers sa prison. Il essaya de chasser sa peur. Demain, sans doute, Sir Guilhem demanderait à le voir. Il lui pardonnerait quand il saurait que ce n'était pas pour chasser que Martin avait déniché le faucon. Il lui dirait sans doute que... Et puis, ce n'était pas le moment de réfléchir. Il serait bien temps de s'abandonner à ses idées au cours de la longue nuit qui allait suivre. Les gardes, derrière Martin, s'essoufflaient dans la montée tout en pestant contre la hauteur des tours, contre l'heure tardive et le service qui ne finissait jamais. Enfin, ils s'arrêtèrent. L'un d'eux ouvrit une petite porte. « Te voici chez toi. »«
Attendez, coupa Martin. Vous ne voulez pas prévenir mon père ? Il ne sait rien. » Il ne sait pas ce qui m'est arrivé. »
Pour éviter à sa famille d'éventuelles représailles, il se hâta d'ajouter. « Il n'était au courant de rien. » « La consigne, » grommela l'homme, sans conviction. « Oui, d'accord. Mais je ne suis pas un prisonnier bien dangereux, moi. Qu'est-ce que j'ai fait, hein ? J'ai déniché un oiseau. »«
Dame, un faucon ! » !»«
Eh bien quoi, un faucon ? Est-ce qu'il en manquerait par chez nous ? Est-ce que le seigneur n'en a pas assez dans ses cages ?» Les soldats se mirent à rire. La faconde de Martin les amusait, ils n'avaient pas tous les jours l'occasion de se divertir.
« Dis donc, Blanc-Bec, tu es bien bavard.
On verra ça demain.
S'il a du bon vin derrière ses fagots, ton père, on ne dit pas non. »
Ils refermèrent la porte. Martin entendit dans l'escalier le bruit de leurs pas qui diminuait. Puis, ce fut le silence, la nuit étoilée en cet automne clément. Par l'ouverture étroite que nul volet ne fermait, la lune éclairait une botte de paille jetée dans un coin. Depuis quand était-elle là, cette gerbe ? Et combien de prisonniers avait-elle reçu ? Martin eut le sentiment que dans ce réduit, on l'oublierait toujours. Il fit le tour des murs, en effleura les pierres d'une main craintive. Il eut peur. Peur d'attendre le matin dans la demi-obscurité, où peu à peu renaissaient des ululements et des... Il prêta l'oreille. C'était bien ça ? Ce frôlement dans la paille ? Ce grignotement ravageur, on ne pouvait s'y tromper. Un rat, affamé sans doute. 2, 3, les récits terrifiants qu'on racontait dans les veillées d'hiver lui revinrent en mémoire. Toutes les histoires de prisonniers dévorés qu'il avait entendues pendant qu'il se brûlait les doigts à décortiquer les châtaignes. Maintenant, il se trouvait lui aussi face à ces bêtes immondes. Il recula autant qu'il put et se plaqua contre la muraille. Dans la pénombre, les rats, maîtres des lieux, visitaient la paille, trottinaient, se dressaient sur leurs pattes de derrière, le museau fureteur toujours en mouvement. L'un d'eux, plus hardi, s'approcha des pieds de Martin.
« Va-t'en, sale bête !»
Il n'avait pas envie de partir. Le garçon sentit avec dégoût le nez de l'animal sur ses orteils. Il ne put en supporter davantage. D'un élan désespéré, il s'accrocha au rebord de la fenêtre, se hissa, s'assit enfin. Un vertige le prit qui lui fit fermer les yeux. Il avait juste la place de se tenir sur cette étroite plateforme. Sous lui, il vit la tour dont le bas se perdait dans l'obscurité des remparts, un créneau qui aurait pu permettre une évasion s'il n'avait été si éloigné de la lucarne, et puis, par-delà l'enceinte, la campagne étrange sous la lumière froide de la lune. Comme elle était silencieuse et lointaine et mystérieuse, la campagne vue de si haut, était-ce les mêmes bois, les mêmes champs, qui avait abrité les jeux du petit garçon et du faucon. Martin sentit un regret monter à son cœur. Toute cette liberté inaccessible.
il décida de rester là jusqu'au matin. Il dut lutter contre le froid qui transperçait son surcot de mauvaise toile. Il dut lutter contre le sommeil. Un moment, son front vint se poser sur ses genoux et tout disparut. La prison accrochée en plein ciel, les rats, le souvenir du faucon. Tout se brouilla. Martin dormait. À son réveil, il frissonna d'effroi. L'aube, en chassant les trous d'ombre, redonnait à la tour toute sa hauteur. Un mouvement, un soubresaut pendant ces heures d'abandon, et c'eût été la chute dans l'hélice. Le pays sortait de la nuit, les collines bleuissaient, le vent jouait dans les herbes le long du chemin qui se perdait à l'horizon. « Un vrai poste de guet, » se dit le prisonnier. « On voit jusqu'à Montmort. » Combien d'heures allait-il falloir passer dans cette pièce étroite? Il commençait à avoir faim, il grelottait un peu. Heureusement, les rats avaient disparu avec les premières lueurs du jour. Martin sauta dans la cellule. Il alla inspecter la porte de bois dur armée de clous, la serrure de fer qui serait traversée les âges, les pierres du mur épaisses, rugueuses, inébranlables. Un grand découragement le prit. Il se mit à pleurer, sans bruit. Les larmes coulaient sur ses joues. Il les essuyait de sa main et se barbouillait. Il attendait. Que pouvait-il faire d'autre? Crier? À quoi bon? Sa voix se perdrait dans l'escalier, dans les grandes salles désertes, sur les chemins de ronde où les soldats ne prêteraient même pas l'oreille. Il pleura longtemps. À la paille souillée par les rats, il préféra les dalles froides.
Il se coucha,
le visage au creux du bras, et resta ainsi pendant une heure. Soudain, il entendit une clé tourner dans la serrure. D'un bond, il fut debout. Enfin, le moment de la délivrance arrivait. On venait le chercher. Sans doute, Sir Guilhem l'attendait-il dans la salle basse. Le cœur en fait, il regarda le ventail qui tournait en grinçant. « Je suis ici » allait-il crier. Mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il vit celui qui entrait et tout de suite, il comprit combien il s'était trompé. C'était un vieux serviteur du château, aussi gris que les murailles. Il referma la porte avec soin
et alla jusqu'au centre de la cellule,
sans s'occuper le moins du monde de Martin. On aurait dit qu'il circulait dans une pièce vide. Il s'arrêta avant de regarder le coin du ciel à travers la lucarne. « Va pleuvoir, » marmonna-t-il. Il eut pour dire cela un ton accablé, que ne justifiait pas l'état du ciel. Puis, après avoir secoué sa vieille tête pour bien exprimer toute la résignation mal consentie, il sortit enfin de dessous son manteau une miche de pain et ensuite une cruche dont il renversa un peu du contenu tant sa main tremblait. « Voilà pour toi, » dit-il avec indifférence. Il s'en retournait déjà vers la porte. Martin, plus rapide, se plaqua contre le bois. « Attendez, » cria-t-il, « quand va-t-on me faire sortir d'ici ?» Le vieillard tira sur sa barbe qui se perdait dans les plis du manteau et, sans répondre, il écarta l'enfant. Celui-ci n'osa pas opposer de résistance. « Dites, je vous en prie, quand va-t-on me relâcher? Quand le Seigneur va-t-il m'appeler ?» L'homme le regarda. Il y avait dans ses yeux, mêlée à une vague sympathie, la surprise qu'une question aussi saugrenue faisait naître.
« Le sait-il seulement que tu es là ?»
Martin recula de stupeur. Il laissa son geôlier ouvrir la porte, la refermer. Il entendit la clé grincer dans la serrure. Il venait de comprendre qu'il se trouvait entre les mains du maître fauconnier. Les paroles du vieux tournaient dans sa tête. « Le sait-il seulement que tu es là ? » Est-ce que le fauconnier le garderait enfermé de sa propre autorité sans prévenir Sir Guilhem ? Mais alors, Martin était perdu. Jamais il ne me pardonnera d'avoir déniché un faucon. La chasse au vol est sa passion. Je suis sûre que jamais il ne me pardonnera. Les murailles lui parurent plus épaisses, la porte plus massive, plus haute la fenêtre. Reverrait-il un jour la campagne? Il eut envie d'échapper autant que possible à cet emprisonnement, de respirer l'air du dehors. Il atteignit d'un bond la fenêtre, les doigts crispés, il grimpa. Un bras, puis l'autre, un nouvel appui, un coup de rein. Recroquevillé sur le rebord de pierre, entre le pays perdu et le cachot, il eut tout le loisir d'établir des comparaisons.